Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 4, 2, le jeu. Pour arriver à comprendre un peu les conduites intellectuelles, nous avons besoin de rappeler quelques notions sur les actes de jeu d'où elles sortent souvent, et sur les sentiments dont le jeu n'est qu'une forme particulière. Un objet intellectuel au premier chef, c'est le portrait, la statue, qui, au fond, sont des objets bien bizarres. La statue d'un personnage, le portrait d'un ami, c'est d'un côté ce personnage, cet ami lui-même. Et nous avons devant le portrait quelques-unes des attitudes que nous avons habituellement devant l'ami. Mais d'autre part, ce n'est évidemment pas lui, car notre ami n'est évidemment pas un morceau de papier. Nous soulevons ce portrait, nous le mettons dans un tiroir, ce que nous ne pouvons faire avec l'ami. C'est lui et ce n'est pas lui. Eh bien, nous avons des conduites qui ressemblent beaucoup à celles-ci. Quand des enfants jouent à la bataille, il y a une bataille puisqu'il y a des combats et qu'à la fin, il y a des vainqueurs et des vaincus. Mais d'autre part, on convient de ne pas se faire du mal les uns aux autres, ce qui est absurde dans une bataille. Et à la fin, aucun des belligérants n'est réellement supprimé ou exclu, puisqu'ils fraternisent tous ensemble. C'est une bataille et ce n'est pas une bataille. Comme le portrait de l'ami était l'ami, et ne l'était pas. Pour comprendre le portrait et plusieurs autres actes intellectuels du même genre, nous avons besoin d'avoir présent à l'esprit quelques notions sur le jeu. À quoi reconnaissons-nous le jeu ? Sur les théories du jeu, voir De l'angoisse à l'extase, 1926, tome 2, pages 432-437, La force et la faiblesse psychologique, 1930, page 147. C'est un ensemble d'actions, de mouvements des membres, de paroles, de combinaisons intellectuelles, quelquefois considérables. Les enfants qui jouent remuent beaucoup. Ils sont quelquefois couverts de sueur, comme s'ils avaient fait un grand travail. Les hommes et les femmes bavardent dans les salons. C'est toute une cérémonie. La présidente de la réception, qui se reconnaît dans le salon à ce qu'elle n'a pas de chapeau sur la tête tandis que les autres dames ont gardé le leur, surveille ses invités. Elle a peur que la conversation ne s'arrête. Car la règle de ce jeu, c'est qu'il y ait tout le temps une personne qui parle. Elle provoque celle qui n'a pas encore parlé et la pousse à lancer elle aussi sa petite chanson, je veux dire, son petit discours. Tout ce monde se donne beaucoup de peine pour parler. Les hommes, quand ils ont fini leur travail sérieux, jouent aux dominos, aux échecs, aux cartes, et font encore avec peine une foule de combinaisons intellectuelles. Dans tous ces jeux, on voit une activation de toutes les fonctions psychologiques. Mais un grand caractère fort étonnant distingue ces actions de toutes les autres, c'est que ce sont des actions qui ne servent de rien. Considérons les jeux des enfants, et en particulier le jeu de la bataille, qui est si fréquent. La guerre, la bataille, sont des actions sérieuses. Chez les hommes, elles ont un but, c'est de supprimer l'adversaire. On le tue, on l'écarte de la société de manière à ne plus le rencontrer. En un mot, le vainqueur doit supprimer le vaincu. Or, que font les enfants quand ils jouent à la bataille? Ils ont une conduite vraiment absurde. Ils admettent au début une convention bien ridicule, c'est qu'on ne doit pas se faire de mal. Quelle singulière idée! Puisqu'on se bat pour supprimer, pour tuer l'adversaire. Ce qui est le plus étrange, c'est qu'ils tiennent leur parole. Après la bataille, il n'y a ni mort ni blessé. Personne n'est supprimé et ils vont tous manger ensemble leur goûter sans aucune rancune. Les hommes qui jouent aux cartes et qui se battent aussi prennent la précaution de jouer entre eux des haricots secs ou des menus monnaies sans valeur. Leur jeu est l'acte de chercher à ruiner l'adversaire et ils ne lui prennent rien du tout. Les jeux sont donc de singulières actions dans lesquelles on fait beaucoup d'efforts en apparence, absolument pour rien. Cependant, on constate que le jeu est très développé chez un grand nombre d'êtres vivants. Nous admettons sans hésitation que les enfants des hommes jouent beaucoup, qu'ils ont des jeux de toute espèce, et surtout des jeux avec des mouvements violents qui ne font rien d'utile, de grandes courses pour n'aller nulle part, et pour rester en somme au même point. Chose remarquable, le jeu des enfants est une marque de leur intelligence, et nous devons nous méfier d'un enfant qui ne joue pas. C'est souvent une marque d'arriération mentale. Nous éprouvons plus d'embarras quand il s'agit des adultes. Nous répétons souvent sans réflexion que les adultes ont joué dans leur enfance et que maintenant ils ne jouent plus parce qu'ils sont devenus sérieux. Défions-nous des gens sérieux ou qui se croient sérieux. Les adultes continuent à jouer énormément. On ne parle pas seulement des jeux de cartes, des dominos, des échecs, des dames et de la politique, qui sont leurs jeux apparents et avoués. Mais ils jouent à bien d'autres jeux sans le reconnaître ouvertement. Ils mangent trop, ils boivent trop, et d'une manière raffinée qui demande des efforts et qui ne sert absolument de rien. Nous jouons avec la parole, avec le raisonnement, avec l'enseignement même. Est-il bien certain que dans nos conférences prétendues scientifiques, il n'y ait pas une part de représentation, de comédie, d'exhibition, et que nous ne cherchions les uns et les autres à nous intéresser, à nous exciter, à nous amuser au fond, plutôt qu'à faire des découvertes scientifiques. Il y a dans la vie humaine des actions à la fois physiques et morales qu'on appelle les actes de l'amour. Je n'ose pas dire tout haut ce que j'en pense, de peur de provoquer l'indignation. Mais en un mot, est-ce que l'amour humain est entièrement identique à l'amour des animaux qui font tranquillement leur petite affaire de temps en temps avec le premier individu du sexe opposé et qui ensuite n'y pense plus? L'homme a raffiné là-dessus plus que sur toute autre chose. Il a inventé des complications folles, des convenances, de la pudeur, des qualités esthétiques et morales, et surtout, il a précisé son choix sur une personne particulière sans laquelle il croit n'être plus bon à rien. On vient de publier de nouveau en français le livre célèbre du grand aliéniste viennois Kraft Ebing, complété par le professeur Moll de Berlin, sur les perversions sexuelles, et on m'a demandé d'écrire pour cette nouvelle édition une préface. Je me suis permis de dire que ces auteurs étaient beaucoup trop sérieux et qu'ils sont trop graves dans un sujet qui n'est pas si grave que cela. Il y a dans les conduites sexuelles une part énorme de jeu et de comédie. Toutes ces conduites bizarres sont des tentatives pour s'exciter avec le sexe, comme on s'excite avec l'alcool et la morphine, et on ne les comprendra pas si on n'y met pas la part du jeu. Pour ne pas insister sur tous ces problèmes, retenons que les hommes et les femmes adultes jouent énormément. Seulement, ils ont changé un peu la nature des jeux d'enfants. Nous aurons à chercher Pourquoi ? Ce qui est curieux, c'est que les animaux jouent aussi. Qui n'a admiré les jeux délicieux à voir du petit chat et même du jeune chien ? Vous connaissez un livre remarquable d'un auteur allemand, M. Karl Gross, « Les jeux des animaux », 1902, qui montre, chez une foule d'animaux, ce qu'il appelle la pseudo-activité du jeu, et qui montre le lien étroit de cette activité avec l'imagination artistique. Je vous rappelle les travaux du professeur américain J.M. Baldwin sur le jeu, qu'il appelle aussi une pseudo-action, une quasi-action. On connaît moins les travaux d'un Français, M. L. Gérard Varré, 1902, sur le jeu chez l'animal et chez l'homme, qui nous parle des relations du jeu et du rêve, ce qui me semble un peu exagéré. Mais j'ai déjà fait allusion aux manifestations intellectuelles des singes et des chimpanzés, en particulier à propos des travaux si intéressants de M. Koller. Il ne faut pas oublier que le chimpanzé est fort capable de jouer beaucoup. Il joue avec tous les objets qui sont à leur disposition, avec leurs petits gobelets qu'ils s'amusent à remplir d'eau, à vider, avec tous les bouts de bois, de fils de fer, de ficelles, avec les pelures des bananes. Ils sont aussi satisfaits que possible en enfonçant un bout de fer dans une fente de bois. En général, ils se plaisent à déchirer, démembrer, briser, sans aucun intérêt pratique. Ils font des culbutes, marchent sur les mains, c'est-à-dire dansent sans avancer, en restant sur place, ou font des rondes autour d'un arbre, comme les enfants, avec une sorte de rythme, un des pieds frappant plus fort que l'autre. Cela rappelle, dit M. Koller, les cortèges des peuples sauvages. En un mot, cet animal que nous avons jugé intelligent joue beaucoup, comme les enfants. Koller, L'intelligence des singes supérieurs, 1927, page 302. Depuis longtemps, les psychologues se sont efforcés de comprendre ce jeu singulier, cette action qui dépense réellement des forces et qui ne sert de rien. Une action est faite pour déterminer une certaine modification dans le monde extérieur et dans l'organisme. On mange pour introduire un aliment utile dans le corps. On combat pour détruire un adversaire dangereux et pour conserver sa propre vie. Que peut bien signifier une action qui conserve la dépense de mouvement et qui supprime tous les bénéfices réels de l'action ? N'est-ce pas une action en contradiction avec toutes les autres ? Aussi, toutes les théories du jeu vont-elles avoir toujours le même caractère ? Elles cherchent un résultat pratique du jeu, résultat que nous n'apercevons pas au premier coup d'œil. Une utilité vitale du jeu qui doit exister, puisque ce genre d'activité paradoxale s'est conservé et développé au travers des générations et qu'il existe encore chez les êtres vivants considérés comme les plus intelligents. Une théorie qui a été longtemps prédominante est la théorie du jeu éducateur, qui a été bien présentée dans l'ouvrage de M. Karl Gross, dont je viens de parler, et qui a été reprise plus tard par M. Baldwin. Tous les instincts qui existent latents chez l'animal à la naissance sont loin d'être à ce moment tout à fait développés. Ils ont besoin d'exercice pour pouvoir fonctionner d'une manière parfaite. Le petit chat doit savoir attraper les souris. Il s'exerce à ce métier en courant après des feuilles d'arbres. L'oiseau doit savoir voler. Il s'exerce en battant des ailes d'une manière en apparence inutile. Le petit enfant doit savoir lutter et se défendre dans la vie. Il faut qu'il apprenne à se battre. Dans cet apprentissage, il risquerait de mauvais coups si la bataille était sérieuse. Elle est transformée en jeu et on prend des précautions comme dans les exercices gymniques des enfants. plusieurs auteurs, comme M. Victor Despasse, iront jusqu'à dire que le travail est sorti du jeu, ce qui me paraît un peu exagéré. Revue scientifique 1903, 1, page 577. Cette théorie a eu des conséquences assez importantes dans la pédagogie, et à une époque récente, on s'est imaginé qu'il fallait transformer en jeu tous les travaux des petits-enfants et des écoliers. On a illustré de belles images les alphabets, et on a essayé de transformer en comédie amusante tous les enseignements. Il y a même eu une littérature et un théâtre qui ont eu la prétention de présenter la morale et la science d'une manière amusante. Castigat ridendo mores. Je ne suis pas bien sûr que le théâtre moralisateur soit bien amusant, ni que le théâtre amusant soit nécessairement très moral. Il y a là bien des illusions. Les enfants à qui on présente de belles images pour les faire apprendre à lire préfèrent le plus souvent jouer à autre chose. Mais le principe même de cette théorie du jeu soulève bien des objections. Est-il certain qu'un instinct ne puisse se développer que par des jeux de ce genre? On a souvent observé que des animaux très jeunes conservés en cage, isolés, jusqu'au moment de l'éclosion de leurs instincts, les présentent d'un seul coup d'une manière complète. Des oiseaux, conservés dans une petite cage, savent parfaitement voler du premier coup. Les actes instinctifs sont imparfaits dans les premiers essais, parce que l'instinct et ses organes nerveux n'ont pas encore tout leur développement. On n'a pas bien démontré que cet apprentissage soit nécessaire ni qu'ils doivent se faire sur cette forme du jeu. En effet, le jeu altère considérablement l'action. Il en supprime le caractère sérieux, c'est-à-dire l'essentiel. Est-ce vraiment courir après une souris vivante pour la manger que de courir après une feuille morte que le petit chat n'a aucune envie de manger? Il est certain que dans certains cas particuliers, le jeu joue un rôle dans l'éducation qui s'en sert à l'occasion, mais qui ne l'invente pas. Une autre hypothèse intéressante est celle qui a été présentée d'abord par le poète allemand Schiller, puis développée par Herbert Spencer. Le jeu serait une décharge de l'énergie psychologique surabondante, « overflow of energy ». L'animal, surtout dans sa jeunesse, aurait à sa disposition une énergie trop considérable qui le gênerait. Comme cette énergie ne se dépense pas chez lui par des actes sérieux, il éprouve le besoin de la décharger à tort et à travers par des actes sans but, en apparence inutiles, mais qui servent au moins à dépenser des forces psychologiques surabondantes. Voir Paul Souriau, Le plaisir et le mouvement, Revue scientifique 1889, et L. Gérard Varré, Le jeu chez l'animal et chez l'homme, Ibid, 1902, 1, page 485. Les études très intéressantes de M. Claparède se rattachent en partie à cette conception. Le jeu permet une décharge d'émotions nuisibles sous une forme non nuisible. L'auteur se place dans une situation intermédiaire entre les deux théories précédentes et, sur bien des points, les dépasse. Claparède, Institut belge de pédologie, 1912. Cette théorie du jeu décharge m'inquiète un peu. Nous avons déjà étudié bien souvent les vraies décharges dans les convulsions épileptiques ou hystériques, et nous n'avons pas constaté de jeu ni d'amusement dans ces décharges. On se trompe souvent en disant que les états d'agitation qui se rapprochent des décharges sont des états de gaieté. Bien souvent, on constate dans les états de manie aiguë le sentiment du vide bien plus que le sentiment de la gaieté. L'observation de l'enfant qui joue ne me paraît guère favorable à cette interprétation. Voici un enfant qui sort d'une longue classe. Il est fatigué et sans entrain. Vous dites qu'il va se décharger en jouant pendant la récréation. Mais se décharger de quoi? Il s'est déjà bien trop déchargé pendant la classe, et je crains qu'il ne lui reste bien peu d'énergie à dépenser. Il se met cependant à jouer, d'abord avec une certaine peine, et quand il a joué pendant une heure avec une gaieté croissante, il rentre en classe avec de bien meilleures dispositions. Il était épuisé à la fin de la classe. Il est rechargé à la fin de la récréation par le jeu qui s'est montré tout le contraire d'une décharge.